RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, c'est l'heure de l'After Tour sur RMC, comme tous les soirs jusqu'au 27 juillet. Nous sommes ce soir en direct de Superbannière au terme de la troisième étape des Pyrénées, remportée donc par un Néerlandais d'une formation britannique. Arensman de Ineos s'impose ici avec quelques minutes d'avance, quelques secondes d'avance sur Tadej Pogacar qui prend la deuxième place et qui une nouvelle fois bat Jonas Vingegaard. On va revenir sur cette étape qui a été pour le moins décevante, enfin en tous les cas pour moi. Je ne sais pas si Jérôme Coppel, Jérôme Pinault et Pierre-Yves Leroux sont du même avis que moi. Bonsoir messieurs.
Bonsoir,
bonsoir
messieurs.
Christophe. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
Vous vous êtes emballés, vous êtes régalés
non,
aujourd'hui?
Non.
Il y a eu une belle étape, un beau début d'étape.
Il s'est passé
quand même
des choses, c'est parti vite.
Un beau vainqueur.
Des abandons au milieu, ça un peu, il s'est pas passé grand chose. Mais après, à la fin, on a eu un beau vainqueur.
Voilà, je pense que si on est
après, si on s'attend
ce soir,
à ce que le tour soit renversé, tous les gens qui attendent l'attaque de Vingegaard pour s'envoler, il n'y aura pas. Hein.
Pas renversé, mais quand il n'y a plus grand-chose à becquer sur le classement général, on aimerait bien vibrer.
Bah, on aimerait du piment bleu, blanc, rouge. Et là, bah,
quand même
temps,
la,
on l'a pas eu.
La grande étape pyrénéenne, normalement. Hein.
Ouais. Alors, couru dans des conditions très particulières, parce qu'il a fait un temps de cochon aujourd'hui
rien,
sur les Pyrénées. Non, au contraire, ça peut même ajouter
ah
du
oui.
piment. Du
quand on ouvre les volets le matin.
Ah oui, ça c'est Cyril qui adorait ouvrir les volets, voir de la pluie et voir de la tempête. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui pour la tempête, mais ça a été le cas pour la pluie et pour le brouillard. Et au bout du compte de cette 14e étape, c'est donc Timent Arensman qui s'impose en solitaire ici à Superbannière. C'était donc tout à l'heure en direct dans l'Intégral Tour.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour de France, bienvenue dans les Pyrénées. C'est la troisième et dernière étape de ce triptyque pyrénéen au programme les plus mythiques des Pyrénées et notamment le Tourmalet qui suivra le col d'Aspin, le col de Peyresourde et la dernière montée vers Superbannière, 12 km 500 à 7,5%.
On est à 100 km de l'arrivée et Remco Evenepoel descend de son vélo et abandonne le Tour de France.
Allez, 150 mètres du passage au col pour Lenny Martinez qui va donc en poché à nouveau de gros points pour son maillot à poids rouge de meilleur grimpeur.
Ça y est, on est dans l'ascension de la dernière difficulté. Super bannière pour Timen Arensman. Attention, Vauquelin est en difficulté. Jordan Zegat vient d'être lâché de ce groupe. Le Vantais en difficulté. C'est Kevin Vauquelin là qui souffre à son tour. Jonas Vingegaard a attaqué et Pogacar n'aime pas trop ça dans ces cas-là. Et là, c'est Tadej Pogacar qui a placé une attaque. Jonas Vingegaard qui a suivi pas Lipovic. Vingegaard attaque. Alors là, effectivement, c'est la bataille. Ça va être très très chaud.
RMC, la flamme rouge.
Allez, Timen Arensman pour les 1000 derniers mètres, les derniers efforts du Néerlandais, le coureur de l'équipe Ineos Grenadiers, les mains sur la bouche et sur les oreilles. Il peut lever les bras.
Il ne revient pas.
Il est content évidemment de s'imposer ici à Superbannière. Et on va surveiller maintenant le duel entre les deux hommes derrière. Voilà. Et c'est parti, Tadej Pogacar qui va passer devant Jonas Vingegaard et qui va s'accrocher, mais qui va peut-être perdre deux, trois petites secondes. Effectivement, voilà. Tadej Pogacar qui passe. Il est là. Kevin Vauquelin.
Il s'accroche.
Oui, il a essayé de limiter la casse et il arrive Kevin Vauquelin.
Alors que Lenny Martinez va en terminer à son tour, alors que le vainqueur d'étape Arensman a passé la ligne à quasiment 18 minutes. Donc pour Lenny Martinez qui a fait la fin en roue libre quasiment. Son objectif, c'était peut-être la victoire d'étape. Quand il a vu que c'était râpé, il s'est rattrapé sur les poids.
RMC, l'After Tour.
Voilà, Timens Arensman, néerlandais de la formation Ineos, qui s'impose donc en solitaire avec 1 minute et 8 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. C'est le premier Tour de France de ce néerlandais. Et donc, dès son premier tour, il met au fond avec une magnifique victoire. Il est allé se la chercher, celle-là, Jérôme Coppel. Hein. Franchement, magnifique pour Arensman.
Ah oui, il marchait vraiment très très fort. Alors, il s'est déjà glissé dans la bonne échappée. Il est parti en haut de Peyresourde, 3 km avant le sommet, à 37-38 km de l'arrivée pour faire un joli raid solitaire. Franchement, ouais, il a vraiment été se la chercher, sachant qu'il était déjà passé tout proche au Mont d'Or puis de Sancy où il avait pris la deuxième place. On avait cru un moment qu'il allait revenir sur Simon Yates. Donc il marche vraiment très fort depuis le début de ce tour Arensman. C'est vrai que la première semaine n'était pas trop dessinée pour lui, le pur grimpeur. Là, il s'est pas raté. Ils ont plus vraiment. Alors, ils ont Carlos Rodriguez en leader au classement général, mais qui joue pas vraiment. Il est dixième ce soir. Il joue pas vraiment le haut du tableau. tableau. Donc du coup, ils ont plus d'opportunités, plus d'ouverture. D'ailleurs, Rodriguez était avec lui dans l'échappée. Il a su saisir sa chance et voilà, première victoire pour lui sur le Tour et puis pour son équipe Ineos Grenadier qui n'avait pas gagné depuis 2 ans sur le Tour.
Et le Tour est sauvé donc Jérôme Pinot pour la formation Ineos, dont on rappelle qu'elle a quand même régné sur le Tour de France pendant des années. 7 victoires en 8 participations entre 2012 et 2019. Depuis, c'est moins ça quand même. Hein. Les leaders se sont envolés petit à petit. Ouais. Et ceux qui les ont remplacés n'ont pas été à la hauteur jusque-là.
Non, ceux qui les ont remplacés n'ont pas été à la hauteur. Et justement, avec le recrutement de Tim Enerensman par le passé, on a cru en lui pouvoir avoir un espèce de potentiel Thomas,
vainqueur de grand tour.
Ouais, Geraint Thomas ou Bradley Wiggins, un vainqueur de grand tour. Il a montré quelques limites sur 3 semaines, mais en revanche, c'est un très, très grand coureur quand même. Et il a gagné sur la Vuelta, il est passé tout près plusieurs fois sur le Giro, il le disait dans ses interviews. Et pour Ineos, finalement, Ineos, depuis l'accident de Bernal, ils sont à la recherche plutôt des étapes sur les grands tours que du classement général. Et ils y arrivent quand même, hein, parce qu'à chaque grand tour, ils arrivent à le sauver le tour. Et cette victoire va leur faire du bien. Il reste encore des belles étapes. On a vu un Axel Laurens en excellente condition. L'autre jour, je discutais avec lui à l'arrivée à Otakam. Je lui dis, bon, t'es en train d'un peu de sauver l'équipe, les marrons du feu, parce que pour l'instant, l'équipe, elle a pas fière allure. Et là, aujourd'hui, avec cette victoire, ça va peut-être encore plus les libérer. Et on va peut-être voir encore 1 ou 2 victoires pour Ineos. Si ça tombait sur Axel, ça nous arrangerait.
Hein. Ineos, puis arrive quand même sous les feux des projecteurs ces derniers jours, puisque un membre du staff est accusé d'avoir été en relation avec quelqu'un impliqué dans une affaire de dopage qui remonte à très longtemps, mais voilà, ça tombe au mauvais moment pour le retour de Dale Braceford qui avait fait justement cette équipe une équipe victorieuse, mais qui lui aussi était très impliqué et là-dedans.
Oui, oui.
Donc, tous les soupçons qui
il y avait eu quelques histoires quand même.
Froome, Thomas,
voilà, de paquets livrés, de livraisons un peu suspectes à une époque. C'est vrai que on parlait plutôt d'eux pour ces raisons-là depuis quelques jours sur le Tour de France. Avec une affaire finalement qui n'a pas pris une ampleur énorme. On verra si ça se poursuit, Jérôme, et si on va un petit peu plus loin dans les prochaines semaines. Là, ça doit leur faire du bien, en tout cas, d'effacer un peu les mauvaises histoires.
Ah ouais, bah après les mauvaises histoires, il n'y a pas de fumée sans feu. Cette histoire, elle existe. Il y a un personnage sulfureux au milieu de tout cela, et pendant une époque où ça dominait largement. Mais ça prouve aussi, messieurs, que quand on annonce le retour de Dave Braceford, alors à l'époque, il nous servait la soupe avec ses marginal gains, ses tactiques, sa marche à suivre, comment fallait faire pour gagner des courses. Ils ont enfin trouvé, on va écraser tout le monde, etc. Ouais, mais pour ça, il faut avoir des super coureurs. Et il n'y a pas de génie dans le vélo. Les managers, tous autant qu'ils sont, ils sont bons quand ils ont des bons coureurs et pas l'inverse. Et quand on a beau s'appeler Braceford Plugueux ou autre, lorsque l'on donne la leçon aux autres, mais si on a pas derrière les meilleurs coureurs, bah on prend des tôles comme tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé avec Ineos, c'est ce qui est en train de se passer aussi un peu avec Visma. Et on doit le dire, les seuls grands acteurs de ce sport, ce sont les coureurs. Et c'est eux qu'il faut rendre hommage, c'est eux qui font la course.
Braceford a quand même été l'instigateur, le fabricant de champions au sein de la formation Sky,
et même
au sein de la formation britannique, avec les médailles olympiques, notamment à Londres en 2012, qui étaient tombées comme un gravelotte. Évidemment, il y a des rumeurs aussi là-dessus, mais c'était quand même une formidable réussite.
Bien sûr, mais eux, ils ont...
Plus qu'en football, hein, parce qu'en Braceford, en foot...
J'allais te dire, s'il était un génie du management sportif,
il n'est pas dans son domaine de compétences, non, peut-être.
Pourquoi Ineos est aussi médiocre maintenant, depuis qu'il n'y a plus des grands coureurs chez eux?
Parce qu'il n'était plus là.
Non, mais.
Il est là et ça va pas mieux.
Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu aussi, malheureusement, le décès de Nicolas Porta. On lui a rendu hommage il y a quelques jours de ça. Lui, il arrivait à gérer le vestiaire. On parlait de foot, gérer le vestiaire, Froome, etc. Il parlait vraiment à l'oreille des champions. C'était le meilleur, pour moi, directeur sportif possible. Nico Porta, il arrivait vraiment à tout gérer. Tactiquement, il était très bon. Maintenant, on a quand même certains DS dans certaines équipes qui sont juste des chauffeurs de voitures maintenant.
Les entraîneurs qui ont pris
les entraîneurs ont pris pas mal le dessus. Sky à l'époque, donc l'ancêtre de Ineos, quand ils sont arrivés en 2011, c'était la seule équipe avec un budget aussi gros. Donc bien sûr, ils sont arrivés d'un seul coup, ils ont acheté les meilleurs coureurs, c'était la première fois que ça arrivait. Moi, je me rappelle de 2011 ou 2012, un des premiers coureurs à rouler chez eux, c'était Edvald Boasenhagen. Et le mec était mis à la planche tout au début, il aurait été leader dans n'importe quelle autre équipe. Donc bien sûr, qui dominait, ils avaient
des garçons qui étaient de bons coureurs qui sont devenus d'un seul coup des vainqueurs
bien
du
sûr.
Tour. Bradley
après,
Wiggins, Chris Froome, vainqueur à 4 reprises du Tour de France, Geraint Thomas,
bien sûr. Et après,
Bernal était.
Ils n'ont pas eu de chance avec Bernal.
Ouais. Oui, mais après,
qui était
maintenant.
Programmé pour en gagner plusieurs.
Des choses toutes bêtes, mais ces gros camions cuisine où les coureurs peuvent aller manger là-dedans. Alors, Jean-René Bernodeau l'avait fait. Eux, ils sont arrivés avec ça. Ils sont arrivés avec des bus 3 fois plus gros. Voilà, ils avaient vraiment. Ils changeaient les matelas dans les hôtels bien avant que ça se fasse maintenant. C'est les gains marginaux.
Mais y a les picots sur les combinaisons.
Voilà, ils ont. T'avais tellement de budget qu'ils avaient quand même un temps d'avance sur pas mal de trucs. Maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui sont comme ça. Après, est-ce qu'ils avaient que ça? Bah, ça, on verra. C'est d'ailleurs une des discussions. Et ça, là, avec la victoire d'Arensman, ça a ramené un peu les projecteurs sur eux. Il y a beaucoup de journalistes qui vont poser des questions. Et d'ailleurs, ça filtre un petit peu. Il y a déjà des journalistes qui gueulent un petit peu parce que les questions sont bien filtrées.
Deux petites choses. On partait de Pau. Aujourd'hui, c'est une victoire d'Ineos. On pense évidemment aux proches de Nicolas Portal. Et deuxième chose, tu disais aujourd'hui, il y a des directeurs sportifs qui ne sont que des pilotes de voiture. Apparemment, Oliver Cookson n'est même pas un pilote de voiture puisqu'il a renversé une spectatrice pendant la course, donc l'un des DS d'Ineos Grenadiers, et il a pris un carton jaune et une amende de 5000 francs suisses.
Quand je dis c'est des pilotes de voiture, c'est pas péjoratif du tout, c'est que le cyclisme a pris un autre tournant, pas à l'époque de Cyril Guimard, par exemple, qui faisait la stratégie en cours de route avant. Maintenant, c'est tout, il y a tellement de gens dans le staff, ils font les stratégies avant par rapport aux puissances des coureurs, reconnaissance du parcours, etc. Donc il y a les directeurs sportifs ont moins d'influence maintenant sur la tactique pour mettre des coups en place tactiquement en fait qu'à l'époque de Cyril ou même dans les avant la Sky en fait finalement là il y avait encore des coups tactiques à faire.
Très bien, en tous les cas, il y en a un qui est heureux ce soir, c'est Timon Arensman, donc ce néerlandais qui s'impose aujourd'hui, on va l'écouter tout de suite.
I can't really believe it.
Je n'arrive pas à y croire. Je pense que j'avais des jambes incroyables aujourd'hui et la forme de ma vie. Tous les spectateurs m'ont donné les quelques watts supplémentaires pour aller arracher la victoire. C'est incroyable, c'est dingue. Gagner une étape sur mon premier Tour de France de cette façon, c'est complètement fou.
Crazy, nous dit Timon Arensman, qui était assez peu connu du grand public en France, puisqu'on rappelle qu'il dispute seulement son premier tour. Il a disputé bon nombre de Giro et de Vuelta, et cette année, il a donc été aligné sur le Tour de France. Eh bien, un bon choix, finalement, pour...
C'est dire la pauvreté de l'effectif Ineos aussi. Hein. À l'époque de Sky, il n'y a pas un coureur qui faisait et Giro et Tour pour essayer... Là, ils l'ont mis.
Oui, c'est vrai qu'il a fait
Il n'y a personne derrière. Hein.
Mais oui. On le surnomme le Pélican.
Pogacar aussi a fait le Giro.
Parce qu'avant, ils allaient faire des stages en altitude, ils contrôlaient tout parfaitement. Là, Arensman a fini le Giro malade, il est parti en stage malade, il n'a pas fait une préparation optimale.
Tu préfères Lavisma ou Ineos?
C'est la question que j'allais demander.
Ludo Richard Pleugeux ou Dave Bressforne? Ni les uns ni les autres.
Alors, parle-nous un peu de ce
Timon. Le pélican de Dale. Ouais, voilà, c'est logique pour un Hollandais volant. On le connaît notamment depuis 2022, quand sur le Giro, je ne sais pas si vous en souvenez, il avait été désigné lieutenant de Romain Bardet pour le mener vers la victoire, mais malheureusement, le Français avait dû abandonner prématurément et il s'était transformé, le numéro 2 en numéro 1. Il avait bien terminé, il avait enchaîné avec une 5e place à la Vuelta, mais 4 ans plus tôt, il était le dauphin d'un certain Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de l'Avenir. On en reparlera peut-être de ce classement. C'est d'abord sur un autre terrain, le cyclocross, que le Néerlandais s'était révélé. Il y a empoché 5 titres nationaux chez les juniors avant de basculer donc sur la route. Et dès 18 ans, il disait d'ailleurs qu'il avait le profil pour bien figurer dans les classements généraux et surtout sur le Giro, la course qu'il rêve de gagner. On verra s'il y arrive un jour et c'est peut-être pour ça qu'on ne l'avait pas encore vu sur le Tour de France, mais on a pu le croiser quand même en septembre dernier sur nos routes puisqu'il avait décidé de rallier Andorre aux Pays-Bas à vélo, 1500 km en 9 jours, pendant lesquels il s'était justement arrêté à Roya, chez Romain Bardet, pour prendre un petit café. Il pleuvait d'ailleurs tellement dans la région qu'il avait fait une petite entorse quand même à son programme en prenant le train entre Clermont et Vichy. Mais enfin, on l'excuse, hein, c'est quand même déjà, c'est pas mal. Et la deuxième course qu'il rêve de remporter, c'est Paris-Roubaix. Il n'a couru que l'édition Espoir et en 2018, il avait terminé troisième. On verra s'il se relance cette fois. Il ne l'a jamais fait encore, Paris-Roubaix, avec les pros. Donc ça peut être un objectif.
Coureur assez complet tout de même, hein.
Bah, coureur assez complet. Et puis Ineos sont pas... Alors ils ont Filippo Ganna pour les classiques, mais ça pourrait être un bon soutien aussi. Alors c'est un très grand coureur. Il fait 1m90, oui. 68 kilos. S'il veut revenir sur les classiques et notamment Paris-Roubaix, va falloir qu'il se remplume un petit peu.
Oui, mais il gagnera plus à Super Bannière.
Bah voilà, c'est ça son profil. Ah, il est
époque,
un peu hybride.
À une époque, il y a que des coureurs qui faisaient ça, qui faisaient Paris-Roubaix, qui ensuite coupaient, faisaient une prépa, perdaient du poids, étaient très performants en montagne.
Oui, c'est en quelques
semaines. Ouais,
je vous parle de Georges Hincapie, par exemple, qui était capable de le faire. Georges Hincapie se transformait en très bon grimpeur après avoir fait les classiques.
Oui. C'est une autre époque. Hein.
Ouais, mais bon, c'était quand même physiologiquement, c'est faisable.
Il était à la soupe. Postal quand même.
Tadej Pogacar le montre que c'est faisable.
Ah oui, Mathieu Van
Der Poel. Oui, mais il perd pas 10 kilos entre
c'est pas les mêmes.
Non, mais là, c'est pas. C'est là, on parle de 2 kilos, 2-3 kilos juste.
Là, il est vraiment affûté.
Parce que
c'est ça.
On est sur l'affiche Pro Cycling Stats qu'on parlait. 68 kilos, à mon avis.
Mais c'est sa physiologie en fait. Il a toujours été comme ça quand il avait 18 ans. Donc c'est pour ça qu'il se disait, je suis prêt pour les classements généraux.
Moi, ce que je trouve drôle dans ton portrait, c'est qu'il est l'obsession du Giro. C'est marrant parce que c'est rare quand t'es pas italien d'ailleurs.
Surtout un Hollandais.
Voilà, un Hollandais passé, de se dire, moi, je veux passer chez les pros et je veux gagner le Giro. Tu demandes à n'importe qui, tu veux gagner le Tour de France. Si t'es pas italien, tu veux pas gagner le Giro. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, il a fait beaucoup de Giro et de Vuelta et c'est seulement son premier Tour de France. C'est marrant comme état d'esprit et ça change, ça fait du bien.
Et pour un Hollandais, on l'imagine. Vouloir s'imposer à l'Alpe d'Huez, là il s'impose à Super Bannière. Et peut-être
il a bien fait parce qu'on n'y va pas à l'Alpe d'Huez.
On n'y va pas cette année, mais on y retournera peut-être un jour, forcément. Très bien. Alors, si Rensman s'impose aujourd'hui, c'est aussi parce que Poggi avait choisi de rouler à l'économie, se contentant donc de répondre aux attaques de Vingegaard dans le final et en le passant. Bah, ça, c'est une tradition évidemment, il ne peut pas se laisser passer par Vingegaard. Donc, en le passant sur la ligne et lui reprenant 4 secondes plus 2 secondes de bonif, journée tranquille finalement. Pour le maillot jaune, une journée de plus. Bon, elles n'ont pas été tranquilles, les étapes d'hier et avant-hier. Mais aujourd'hui, voilà, il s'est contenté de jouer à l'économie.
Oui, je ne sais pas, en fait. C'est l'impression qu'on a eue, qu'ils ont donnée. Alors, c'était une journée difficile avec le mauvais temps, on en a parlé. Il l'a dit lui-même, Pogacar, dans la descente du Tourmalet. C'était un peu effrayant avec la pluie et le brouillard. Mais dans ses réactions d'après-course, il a quand même dit, alors, est-ce qu'il bluffe ou pas, on ne sait pas. Mais il a quand même dit qu'il n'était pas dans un super jour, qu'il n'était pas serein, que ce n'était pas son meilleur jour, etc. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas, finalement, est-ce qu'il n'a pas attaqué au pied ou est-ce qu'il n'a pas mis son équipe à rouler au pied de la dernière bosse parce qu'il avait peur, il n'était pas sûr de ses jambes. Voilà, et puis il n'était peut-être pas si fort que ça, parce que sur la première attaque de Vingegaard, il met un petit moment à revenir quand même, Pogacar. On se dit qu'il lisse son effort, mais c'est pas dans son habitude. Et il contre pas tout de suite, il attend un petit peu, il va en mettre une deuxième.
Il dit qu'il n'avait pas le super power et le super boost pour le contrer.
Et il a vraiment attendu les 250 derniers mètres pour là, tout mettre et puis et distancer Vingegaard. Donc, est-ce qu'il a vraiment géré ou est-ce qu'il était dans un jour un petit peu moins bien? Bon, un jour un petit peu moins bien, il fait deuxième de l'étape. C'est sûr que si la bagarre entre les deux démarre beaucoup plus tôt pour Arensman, c'est très compliqué.
Il s'attendait à ce que le Danois attaque plus vite et on l'a vu dans le dispositif au départ, ces deux lanceurs pour les dernières montées quand il veut gagner étaient derrière lui et tout de suite on a compris ils ont des zones de travail, des zones de puissance dans lesquelles il faut monter lorsqu'on veut soit faire tempo élevé pour annihiler toute tentative d'attaque, soit faire un tempo pour attaquer. Et c'est vraiment deux zones différentes. Et là, ils étaient dans cette zone-là en attendant qu'éventuellement Vingegaard attaque en ayant derrière Narvaez et Yates. Là, le Danois a attendu 3 km, on s'en doutait un peu, pour ne pas se faire contrer, pas se refaire humilier. Et on a vu effectivement Pogacar ne pas contrer avec beaucoup d'agressivité. Là-dedans, il y a peut-être un peu de bluff, un peu de gestion. Et surtout un peu d'empathie pour les autres, peut-être aussi, ne pas surdominer pour pas se mettre tout le monde à dos, peut-être. En tout cas, ça n'a pas empêché que Arensman avait quand même 3:30 au pied et que quand on voit le palmarès du garçon, effectivement, il fallait des bonnes attaques de Pogacar pour aller chercher. C'était possible, mais il avait fait quand même la différence avant.
Sans être vraiment un tempo élevé, Tadej Pogacar fait tomber tous les chronos qui précèdent dans cette montée de Super Bannière des années précédentes.
Aujourd'hui, dans Super Bannière,
oui, oui. On n'était pas revenu depuis 1989.
Oui, non, mais c'est mieux que Gertjan Tonis, que Bernard Hinault, mais bon, tout a évolué aussi. Ouais, là, c'est un peu logique.
La dernière escalade de Super aussi, Bannière, c'est 89. Ça commence. Là, il y a vraiment des différences de machines. Enfin, voilà,
quand on n'est pas venu depuis si longtemps, c'est difficile de comparer.
Si tu compares il y a 2-3 ans, là, mais là, je pense que c'est difficile.
À l'époque, ils avaient 4 pignons, le petit plateau en 42 ou 44.
Et le revêtement. Le revêtement aussi.
Rien que le revêtement. Dans notre région, autour de chez nous, il y a 2-3 bosses références, dont une qui est proche entre Oudon et Champtoceau. La route a été refaite. Les garçons montent 5 à 7 secondes plus vite. C'est des courtes déjà, rien que l'enrobé.
Toi, t'as encore battu d'ailleurs récemment.
Non, j'ai rien battu du tout.
Ah, d'accord.
Ah, de lenteur, ouais.
Il a battu dans l'autre sens, dans la descente, là.
Alors, bien. Moi, je passe pas mon temps à vouloir battre les coms, et même quand j'étais coureur, ça me.
Moi, ça n'existait pas, je te rappelle quand même.
Si, tu vois, quand même, je suis pas né en. J'ai pas fini ma carrière dans les années 80.
Je croyais.
Pas loin, quand même. Allez, on écoute tout de suite Tadej Pogacar. Donc, deuxième de l'étape aujourd'hui, et qui conforte encore un peu plus son maillot jaune avec 6 secondes de mieux. Il est à combien d'avance désormais sur Vingegaard? Ça commence à faire beaucoup.
Ah oui,
ça,
on a passé les 4 minutes.
4 minutes 13. Allez, on écoute Tadej.
C'était une journée difficile. C'est vrai que la météo n'a pas aidé non plus, mais nous devons nous adapter. Si toutes les journées de course sont comme ça, je pense que j'ai de bonnes chances.
Ah bah voilà, c'est une interview très rapide de notre ami Tadej Pogacar. Il disait plein de choses intéressantes, on l'a entendu tout à l'heure. Là, bon, évidemment, c'est pas la peine de passer ça sert à rien. Qu'est-ce que je voulais vous dire, le cannibale n'avait pas assez faim aujourd'hui, hein. C'est ce que dit Mauro Gianetti, qui aime pas quand même qu'on compare son Tadej à un cannibale. On écoute normalement Mauro Gianetti.
Je crois que s'il était un cannibale, il aurait peut-être attaqué plus tôt, essayé de gagner l'étape. Je crois qu'aujourd'hui, il est tout au contraire qu'un cannibale. Il pense au grand but de gagner le tour, pas aller chercher l'étape à tout prix, parce qu'en plus, il n'est pas un cannibale. Mais si Vingegaard, il attaque plus tôt, peut-être ça se met compliqué.
C'est un vegan, en fait, c'est pas un cannibale.
Voilà. Ah, c'est un cannibale vegan. Il peut manger beaucoup de tofu aussi.
Je crois que c'est une réaction à peu près normale. Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, nous on le voit au-dessus. On parle d'un garçon qui a pas la douleur, qui ressent rien, mais il a encore pas gagné le tour. Il lui reste une dizaine de jours avec des Alpes, le Ventoux. Lui, si il est un vrai coureur cycliste et un énorme champion sans attributs artificiels. Il sait qu'à un moment, il peut être aussi fatigué. Il sait qu'à un moment, il peut avoir un passage à vide. Donc, évidemment qu'il gère ça comme un homme normal, un champion qu'il est. Et il ne veut pas s'enflammer parce que le tour se gagne sur 3 semaines. Et que quand on est un homme normal, sur 3 semaines, on peut avoir des coups de moins bien. Donc aujourd'hui, il n'avait pas d'intérêt majeur à gagner à Super Bannière. Alors, à part pour les gens du coin, c'est sympa, mais lui, ce qu'il veut, c'est gagner le tour. Oui, il y a des étapes importantes. Je pense que le Ventoux est pour lui quelque chose d'important. Il y aura certainement la Lose, comme il y a eu au Takam, où il voudra avoir une espèce de revanche. Mais sinon, les autres étapes, franchement, il n'a pas besoin de s'enflammer aujourd'hui. Hein.
Moi, je trouve qu'il a. C'est comme s'il a mûri un peu, Tadej Pogacar. Avant, il était vraiment foufou.
Mais déjà, cette saison, j'ai dit, voilà, on s'est souvent
dit ça. Il est beaucoup
ça.
Plus calme dans les courses, et notamment sur le Tour de France. Peut-être qu'il a aussi appris de ses défaites face à Jonas Vingegaard. Des fois, il gaspille un peu son énergie à droite, à gauche, à faire des sprints massifs. Il allait prendre 2-3 secondes de bonif par-ci, par-là. Cette année, il n'a pas du tout fait ça. Pourtant, il a dominé le Tour l'année dernière. Il ne l'a pas du tout fait. Donc, il mûrit aussi. Ça, c'est bien. Et ça donne des opportunités à des coureurs comme Arensman qui sont échappés d'aller gagner. Il a dit un truc drôle dans une déclaration, il a dit: j'ai l'impression que le Tour de France, enfin les traceurs du Tour de France ont pris tous mes mauvais moments de mes derniers tours et ont retracé le tour, parce qu'au Mont Ventoux il avait été distancé un petit peu par Jonas Vingegaard, au Takam et le col de la Lose. Alors tu parlais de là où il veut peut-être
Mont Ventoux,
inscrire son nom.
Où s'était imposé avec 2 passages au Ventoux, Wout van Aert.
Donc le Ventoux, sûr, il va vouloir la cocher, et le col de la Lose, bien sûr.
Il veut effacer les mauvais souvenirs.
Exactement, il veut effacer
sachant
tous les mauvais souvenirs.
Il n'en garde pas, parce que ça aussi c'est une info qui est tombée aujourd'hui, il n'en garde pas pour la Vuelta, puisque la Vuelta, il n'ira pas. La décision a été prise chez UAE d'y aligner Jolmeida. On en conclut que Pogacar n'ira pas, puisque João Almeida sera aligné sur la Vuelta en tant que leader.
D'accord.
Donc là, c'est réglé. Il avait déjà plus ou moins déclaré que ça faisait encore repartir de la maison. Donc probablement pas de Tadej Pogacar à la
Vuelta. Et on sait que son objectif de fin de saison, ce seront Kigali. Les championnats du monde à Kigali, au Rwanda. Très bien. Dans un instant, on va parler de son dauphin, qui a tenté encore une fois aujourd'hui, Vingy, mais qui n'a pas réussi à décramponner Pogacar. On reviendra évidemment aussi sur l'abandon du troisième homme, Remco Evenepoel, qui n'avait pas les jambes et qui a préféré bâcher. Et puis, on s'intéressera aux Français et à l'étape de demain, parce que là, il faudrait quand même que ça score un de ces jours. Hein, allez, 19h24, on revient en direct de Super Bayern dans un instant.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
19h29 sur RMC, l'intégrale, enfin plutôt la tour, hein, l'intégrale c'était tout à l'heure, toujours en direct de Super Bagnères, toujours plongé dans la purée de pois. Je ne sais pas si ça va nous accompagner longtemps.
On a des lampes de proche.
On va descendre de la montagne.
Toi, t'aurais préféré une purée de frites, une purée de patates, Christophe, les pois, pas trop.
Hier soir j'étais raisonnable, je te signale.
Ah bon, ouais.
T'appelles ça raisonnable?
Sans qu'on a mangé le même plat.
La lombarde.
Bah, on a tous mangé la même chose.
Ouais, avec des frites, toi.
Ah non, avec des pâtes. Allez, on va pas. Les auditeurs s'en fichent complètement de
tes menus.
Des menus. C'est vous qui mettez ça sur le plat à chaque fois.
C'est le cas de le dire.
Exactement. Vingegaard. Parlons de Jonas Vingegaard, qui fait ce qu'il peut, mais qui a le mérite au moins d'essayer de faire quelque chose. C'est déjà pas mal quand on sait ce qu'il a pris quand même à Otakam l'autre jour. Hier, on l'a vu terminer à 36 secondes de Poggi. Et aujourd'hui, bah, une nouvelle fois, il a tenté de l'attaquer. Alors pas au pied de Super Bagnères. Il a attendu un peu quand même avant de le faire. Bon, il savait très bien qu'il allait se faire contrer. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il sait que de toute façon, ça sert à rien qu'il va se faire passer sur la ligne. Mais au moins, il le fait.
Il essaye. Nous, on aimerait le voir attaquer de plus loin pour le spectacle, mais lui, il sait surtout que Tadej Pogacar est plus fort que lui. Donc, s'il attaque au pied et que Tadej Pogacar décide de contrer, il va encore prendre une valise. Donc, il n'a pas non plus envie de se faire humilier encore une fois. Je pense pas qu'il s'accroche à cette deuxième place, mais s'il peut attaquer sans se faire humilier, ça l'arrange quand même bien, Jonas Vingegaard. Mais heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, parce que aujourd'hui, s'il n'est pas là, par exemple, alors, Pogacar a déjà gagné, mais c'est le seul qui l'attaque, qui arrive à le suivre un petit peu. Parce que
il y a Gall qui a attaqué, mais là, ça a pas, il n'a pas bougé une oreille.
Ouais, mais d'ailleurs, tu fais bien d'en parler, parce que chapeau à Félix Gall qui a quand même tenté, il fait pas peur à Pogacar et Vingegaard.
Il a gagné deux places au général.
Il a gagné deux places, il a tenté, donc c'est quand même un bon coup. Mais on voit que Lipovic, il s'accroche comme il peut, c'est le meilleur des autres, mais il a aucun moyen d'attaquer, il va jamais essayer.
C'est d'ailleurs situationnel quand. Il passe la première attaque, il demande Arlet. En gros, contre-moi pas, passe-nous Arlet, comme ça tu vas être devant, tu vas pas me contrer. Parce que cette image est forte, c'est qu'il a peur d'attaquer. Il attaque avec les rétros. Il met pas les cacahuètes comme il mettait avant. C'est le dauphin de Pogacar. Laurent Sierra disait d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Bah, il a raison, il va pas le mordre, il peut pas le mordre. Il est impuissant face à Pogacar. Par contre, on peut juste mettre sous la lumière son courage et son abnégation, parce qu'aujourd'hui il pourrait aussi dire bon ben moi c'est fini, je vais faire deux, je vais pas attaquer. Il attaque à trois bornes, c'est pas pour aller chercher Arensman, il sait qu'il va pas rentrer. Il essaye quand même. Si aujourd'hui il était, si finalement pas bien, il essaiera jour après jour, je pense, mais il y va pas plein gaz, parce que il sait que quelque part c'est une blette. Pogacar, s'il lui met la cacahuète, si c'est une bête blessée et que ça lui fait un peu mal, il va te la rendre aussi fort que tu lui as donné. Et quand t'as pas envie de prendre une grosse gifle, bah tu mets une petite calotte tranquille et tu te dis
Tu fais pas ça aussi pour entre guillemets son image, pour montrer qu'il a un peu de courage,
tu
pourras rester dans les roues.
Après attention, on parle quand même d'une course cycliste dans des cols à très haute intensité, ils ont pas tout ça dans la tête. Je pense que Vingegaard, c'est un champion, et il dit je vais lui mettre une petite cacahuète quand même. Je pense qu'ils en sont là. Surtout, il pense pas à son image, Pilou, à trois bornes, en disant les gens vont penser moi que je suis un attaquant, je vais en mettre une petite. Non, je pense que il se dit je vais en mettre une, mais pas totale, parce que je veux pas me faire contrer. Voilà.
Par contre, le grand enseignement de la journée pour moi, c'est la stratégie de Visma. Ça y est, là c'est pour essayer de renverser le tour, bien sûr, ils ont compris, c'est terminé. Mais on a parlé un petit peu de points de relais avec Kuss qui était à l'avant. Ça, il y a même pas eu. Quand ils se sont fait rattraper, ils se sont fait croiser par le peloton. C'est fini.
Le constat à la rue.
Jorgensen, il a pété au pied de la dernière bosse. C'est fini. Maintenant, il joue les victoires d'étape. Et Jonas Vingegaard, lui, bien sûr, il va défendre sa deuxième place. Mais il y a plus de plan là. Il y a plus rien. C'est sauf qu'il peut. On va essayer d'aller chercher les étapes.
Comment vous expliquer une telle Bérézina de la part de la formation Visma. Son leader n'est pas au niveau de Pogacar, mais au moins il est quand même numéro 2 du Tour de France.
Le meilleur des autres.
Les autres, les Jorgensen, bon, Yates a gagné une étape, mais Kuss n'est plus que l'ombre de lui-même. On a vu, c'était Campenaert qui était le dernier représentant de la formation
parce
Visma.
Que le c'est quoi, vélo
ça a pété dans la tête, ou alors c'est le désespoir, c'est une tactique inefficace, c'est une mauvaise préparation. Comment on explique? Est-ce que vous avez des...
Moi, je pense que c'est le bazar en interne chez eux. Je pense que l'entente qu'il y avait quand Jonas Vingegaard marchait, gagnait ses deux tours, quand Wout van Aert gagnait le Ventoux, quand on passait deux fois... En fait, quand il dominait, quand tu domines, c'est facile, tu t'entends tous bien. T'en donnes une à un, allez, Sepp Kuss, on va te donner une Vuelta. Toi, van Aert, tu vas aller gagner au Ventoux. Tu peux en donner à tout le monde. Donc, quand ça marche, bah l'entente, il n'y a pas de problème.
Il y a deux ans, quand même, c'est pas si loin en arrière.
Ah ouais.
Rappelez-vous, mais là, vainqueur...
ils vieillissent tous, et puis on va revenir encore là-dessus, mais je pense qu'on n'en parle pas assez, mais l'interview de la femme de Vingegaard, ça a mis un bazar sans nom, parce que Van Aert il s'est sacrifié combien de fois pour Vingegaard?
Zéro.
Van Aert il s'est sacrifié zéro fois pour Vingegaard. Tu rigoles ou quoi?
Sur ce tour-là.
Non, depuis qu'il court ensemble.
Ah oui, bien sûr.
Et là, la femme de Vingegaard arrive et dit qu'il ne comprend pas que Wout van Aert est sa carte. Il y a quand même un truc qui va pas. Oui. Donc Plougueux, il a beau dire non, ça a pas mis le bazar dans l'équipe.
Et du coup, il sacrifie plus du tout cette année. Hein.
Maintenant, il sacrifie plus.
Oui, mais
il y a pas d'entente dans ce groupe. Tige Benoît, il a pété,
Il arrive dans le groupe et Tige Benoît. Il est avec les moments.
Non, mais vous êtes en train de dire, ils vieillissent. Enfin, Matteo Jorgensen, il a 26 ans. Il a fait quoi sur Paris-Nice? Il a fait quoi sur le Dauphiné? Il était là.
Oui.
L'année dernière, il est huitième.
Non, mais là, il y a un
truc. Mais ils se sont loupés dans la prépa.
Voilà, Matteo Jorgensen, il est pas à son niveau, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a aussi une histoire d'entente. Le groupe vit pas bien. Le groupe vit pas bien, comme on dit en foot. Et ouais.
On va les engager à RMC, oui.
Avant, ça vivait bien parce que ça vivait bien parce que ça gagnait.
Non, mais ça vit bien quand ça gagne. Et puis surtout, je pense qu'il y a un loupé dans l'approche du tour et notamment, Est-ce que un Matteo Jorgensen, il a l'implication nécessaire pour faire gagner un mec qu'il doit aujourd'hui considérer comme incapable de battre Pogacar? Ils sont allés au charbon toute l'année. Ils se sont fait taper dessus par Pogacar toute l'année.
C'est ça le souci.
L'autre, il est en stage, il vend du poiscaille, et puis sa femme dit, vous êtes tous des nazes, faut pas voter. Et puis, on va bosser pour lui, et nous, on est allés au charbon pour un mec, on est sûr qu'on va se faire broyer. Il n'y a pas la même intensité. On ne peut pas s'engager de la même façon. On a beau faire les mêmes choses année après année, même à l'entraînement GG, un exercice avec les bonnes zones, fait avec la tronche parce que tu es dedans, et fait en dedans parce que tu sais que tu vas te prendre une tôle et que le leader désigné, c'est pas juste, ça fait pas le même résultat, et c'est ce qui se passe sur la route.
Mais prenons l'exemple inverse d'une équipe plus petite, Arkea BNB, avec Kevin Vauclin qui, lui, dépasse presque les espérances.
Il sublime tous ses coéquipiers.
C'est l'effet inverse.
Pour la petite histoire sur Tige Benoît, il a quasiment déjà signé chez Decathlon.
Ah c'est fait, ouais.
Donc il est plus déjà dans les plans. Donc un coureur qui est en train de partir, à qui on dit tu vas faire ci, tu vas faire ça, t'as mal aux pattes.
Donc erreur de casting, ils auraient jamais dû le prendre.
Mais c'est une erreur de casting, Christophe, quand tu sais qu'en plus le patron de cette équipe est un homme de presse, un homme de communication. Il se laisse déborder par femme d'un de ses coureurs. Mais c'est la base.
Je veux pas défendre Plougueux, mais tu peux pas, t'as pas la main sur ce que va dire la femme de tes
coureurs. Quand tu t'appelles Plougueux, t'as la main sur la presse danoise. Peut te dire que l'interview de la femme de Vingegaard, elle doit jamais sortir.
Surtout pas à ce moment-là.
Vingegaard assurait probablement de terminer ce tour à la deuxième place. Ce sera la troisième fois, mais pour espérer remporter une cinquième victoire d'étape. Est-ce que c'est encore possible pour lui cette année? Oui, est-ce qu'il va repartir Fanny de ce Tour de France?
Vingegaard?
Ouais. Il va repartir Fanny.
D'accord. Ça dépend de Tadej Pogacar. Si Tadej Pogacar.
Tu crois qu'il peut faire un cadeau à Vingegaard?
Faire un cadeau.
Jamais.
Moi, j'espère pas.
J'espère pas.
On en a parlé. Lance Armstrong avec Pantani, c'est une autre époque, mais l'image est déplorable. D'ailleurs, Lance Armstrong, c'était pour humilier Marco Pantani.
Tadej Pogacar n'a pas ce caractère-là.
Je crois pas qu'il
humiliera à coup de pédale, mais pas un truc comme ça.
Bien sûr que Pogacar va jamais laisser partir Jonas Vingegaard, donc il va rester collé dans la roue, et comme il est plus fort, il va le battre sur la ligne.
Sa seule chance à Vingo de vouloir gagner une étape, c'est de prendre un ticket, de prendre 20 minutes, de laisser tomber la deuxième place. C'était sa seule chance de gagner une étape.
C'est pas le genre, jamais.
Bah, donc il gagnera pas d'étape parce que Glick qui va y aller, c'est Pogacar qui va y aller. Et d'entre les deux, on a vite vu qui était le plus fort.
Très bien. Donc il repartira Fanny avec tout de même la deuxième place au classement.
On passe
général.
Le bonjour à Fanny d'ailleurs.
On connaît sait, mais... le premier, on connaît le deuxième et sans doute également le troisième de ce Tour de France après l'abandon de Remco dont on parlera dans un instant. Lipovic qui semble s'être installé sur la troisième marche. Est-ce gagné pour autant pour le jeune Allemand, cette place sur le podium? On en parlait tout à l'heure dans l'intégrale. Pour vous, rien n'est encore fait. On rappelle que Lipovic, c'est un jeune coureur, que derrière lui, il y a aussi d'autres jeunes coureurs comme Honley ou comme Vauclin. Le seul qui a de l'expérience, c'est Roglic, mais Roglic a à nouveau pris un tir aujourd'hui. Donc, entre l'expérience de Roglic, la jeunesse, mais le manque de connaissances de la troisième semaine pour les autres...
C'est pas du tout fait pour Lipovic. Il a 1:25
sur Honley, 2:28 sur Vauclin.
Voilà...
2:40 sur Roglic.
Ouais, donc c'est pas beaucoup. Même sur Roglic.
Avec le parcours
avec
qu'il y a
le
encore,
parcours qui reste, 2:40. Alors c'est vrai que Primoz Roglic, il monte pas encore aujourd'hui. Il nous a pas montré qu'il était vraiment aérien.
Il est à son niveau. Il a fait une super étape.
Mais si Lipovic et Only restent à leur niveau, bien sûr qu'il va pas reprendre les secondes qu'il a en retard. Maintenant, entre Lipovic et Only, dur à dire. Aujourd'hui, Lipovic a montré à la pédale qu'il était au-dessus d'Only. Il a 1:25 d'avance, donc il paraît être le favori pour monter sur la troisième marche du podium. Mais il reste encore une semaine et on n'est pas à l'abri que Lipovic c'est un petit coup de moins bien et qu'Oscar Only tienne mieux que lui, quoi.
Il est quand même en train de battre des records et il montre qu'il est très régulier puisqu'il vient d'enchaîner un troisième top 5 d'affilée, troisième à Otakam, quatrième à Peyragudes, cinquième aujourd'hui. Il est le premier Allemand à le faire depuis le sprinter André Greipel en 2012, il y a 13 ans.
Et il se surprend lui-même, Florian Lipovic, on l'écoute.
Quand je suis arrivé sur le Tour, jamais je n'aurais pensé pouvoir me battre pour le podium et encore plus pour le maillot blanc. C'est un rêve qui devient réalité, je suis super heureux, il reste une semaine et nous devons rester focus.
Voilà donc pour l'interview à Express de Florian Lipovic.
Juste un petit truc. Oui, il est le favori, mais les Pyrénées ne sont pas comme les Alpes. Et inversement, tu peux être très bien sur un massif comme les Pyrénées et tu peux être beaucoup moins bien dans l'autre massif. Ça vaut pour tous les coureurs.
Et ça vaut pour les 3-4 là.
Bien sûr.
L'expérience va jouer. Je pense que Roglic est médiocrement régulier et fera pas que les jeunes y pètent. Parce que sinon, il va lui passer gentiment.
C'est ça. Après, il y aura peut-être des consignes d'équipe pour Primoz Roglic. Attention, Lipovic, c'est l'équipier, si Lipovic pète, limite la casse.
De toute façon, Roglic n'a jamais attaqué de sa vie. Il ne va pas commencer maintenant. Et si Lipovic pète, régulièrement, Roglic va remonter. Naturellement. Ouais. Et ce ne serait pas étonnant que ce soit finalement
tu restes sur ce que tu disais hier.
Moi, je reste sur le fait que Roglic finira troisième du Tour. Alors, j'ai dit que Vingegaard allait gagner. Donc, je dis que des bêtises. Mais je reste là-dessus parce que j'ai envie d'y croire parce que je me dis que Kevin il risque d'avoir encore des moments difficiles. Only aujourd'hui on l'a vu un peu secouer la machine. Lipovic c'est pas à l'abri d'un. Lipovic il a le seul truc qui peut le prendre par les petites pattes, c'est de vouloir suivre les ténors. Aujourd'hui il a voulu suivre les grands. Attention à ça, de pas aller
dans la zone rouge.
Voilà, c'est ça. Il faut qu'il muscle son jeu.
Faut voir avec l'enchaînement. Mais ça, c'est des efforts. Ça. On sait qu'il vient du biathlon, il vient du ski nordique. C'est des efforts où t'as toujours le cœur au taquet, t'es toujours au seuil. Il connaît ça. Mais par contre, le biathlon, son sport de prédilection, t'enchaînes pas 21 étapes comme ça.
Ouais. Après, il sort pas le fusil au sommet pour mettre dans le mille.
Voilà. Ça, c'est dommage.
Heureusement.
Il devrait peut-être le prendre.
Alors, l'info du jour, c'est évidemment l'abandon de Remco, le champion olympique sans jambes, qui a bâché très tôt dans la journée. Surprise, vraiment, à notre plus grande surprise, on était dans l'ascension du Tourmalet quand on l'a vu ralentir. Il était vraiment à l'agonie, à la ramasse. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Alors, on a écouté Tom Steele tout à l'heure qui nous disait, c'est juste une histoire de jambes. Ça, a priori, c'est pas un microbe, c'est pas une maladie, mais on a l'impression que là, ça a pété dans la tête.
Ça a pété dans la tête. Ça faisait deux jours qu'il était limite vers Otakam. Il a limité les dégâts, le chrono, il a pris un carton. Donc mentalement, il y était pas. Moi, je pense que le problème de Remco Evenepoel, il vient de son accident du mois de décembre. Il n'y a pas de secret dans le vélo. Il a quand même passé un bout de temps temps sans pouvoir s'entraîner et c'est l'hiver que tu prépares ta saison d'été. C'est l'hiver que tu prépares tes succès. C'est l'hiver que tu prépares déjà le Tour de France. Tu fais le fond de jante, comme on dit. Tu fais l'endurance. Tu fais vraiment du volume, beaucoup d'entraînement. Et lui, il a raté toute cette période-là. Du coup, il a dû essayer de rattraper le temps perdu que tu ne peux jamais rattraper. Donc, il a beaucoup roulé. Il a repris les courses un peu vite. Mais en fait, il lui manque du fond pour être régulier sur les courses d'une semaine et surtout sur les courses de 3 semaines. Donc ça a tenu 10 jours, ça a tenu 12 jours et après ça a pété. En fait, c'est à mon avis son accident
donc
du mois de décembre.
Donc c'est un peu le même problème que l'année dernière. Ah, on rappelle que lui aussi avait chuté au Pays Basque.
Et, il avait fait l'hiver.
Je rejoins Gilles,
il a fait l'hiver.
Au Pays Basque,
c'est la base de la recette. C'est le temps de séchage de la dalle. Quand tu la coules, il faut attendre que ce soit bien pris pour y mettre les parpaings. Mais c'est vrai, c'est comme ça que ça se construit.
Bien sûr.
Et la deuxième chose qui, je pense, moi, et malgré tout, c'était une bonne nouvelle, c'est son retour à la compétition lorsqu'il gagne la Brabançonne. Parce qu'il est revenu et il a gagné de suite. Et là, on ne pourra jamais m'empêcher de croire que lorsqu'il est revenu, qu'il a gagné, il s'est dit « Bon, c'est bon, finalement, moi, je fais un peu de vélo et ça revient et je les écrase. » Sauf que une semaine après, il était à Liège, il a pris une casquette par Tadej Pogacar et depuis, il n'a jamais été au niveau, à part sur les chronos. À chaque fois en montagne ou au Dauphiné, il est en difficulté. Et sur les premières étapes, on l'a vu, il était là, il a attaqué une fois à Mont-d'Or, mais dès les vrais massifs, c'est-à-dire il y a 3 jours dans l'étape d'Otakam, eh ben on a vu que Remco, il n'était pas dans les watts pour être en haute montagne, capable de suivre les autres. Et ça, comme le dit Jérôme, c'est la base de la fondation de cet hiver qu'il a manqué.
Une statistique inquiétante, mais qui me rappelle un autre amateur de football, c'est Thibaut Pinot. C'est quand on regarde sur les grands tours, il y a quasiment 50% d'abandon. Il a jamais terminé sur le Tour d'Italie. Il avait deux participations.
Ouais, alors le coup, il en a fait deux. Il avait gagné, quasiment gagné, et il a eu le Covid.
Oui, mais enfin bon,
ça reste un abandon.
Ouais. Oui, mais bon, là, c'est une maladie.
Deux participations.
C'est pas
COVID, là, il est 1/2 sur le Tour de France et il a terminé les deux Tours d'Espagne.
Mais attention, ça reste un énorme champion. Il reviendra.
Bien sûr.
Thibaut Pinot était un énorme champion.
Bien sûr.
Ouais, c'est en dessous Remco quand même.
C'est un énorme champion.
Mais ça montre quand même.
T'as pas de secret, t'as beau être un immense champion, ça passe sur
les
son
bases
terrain,
du cyclisme,
le chrono, parce que c'est court, si t'as justement pas fait ses fondations, pas fait ce fond de jante l'hiver, ça passe parce que c'est des efforts de 30 minutes, de 45 minutes, c'est bon, mais quand t'enchaînes les jours, quand t'enchaînes les étapes, ça passe plus. Oui. Je veux dire, à un moment donné, si ça passait de pas s'entraîner l'hiver, on s'embêterait pas à aller rouler quand il fait froid, à partir en stage au soleil, etc. Donc, pour moi, le problème de Remco Evenepoel, c'est sa chute du mois de décembre.
Il doit quand même, persévérer dans sa quête de Tour de France. Il doit changer d'équipe, mais ça, c'est a priori, ça devrait se faire. Et il doit revenir sur le Tour pour espérer gagner.
Bien sûr, il doit revenir sur le Tour. Un talent comme ça, tu peux pas faire une croix sur le Tour et se dire je vais aller gagner un Giro ou des courses d'un jour. Non, il doit continuer parce que Tadej Pogacar va peut-être pas faire 10 ans. Vingegaard non plus. Lui, il est aussi très très jeune et surtout il a le moteur pour le gagner.
Oui, puis c'est surtout que c'est un garçon qui aime les belles choses. C'est un garçon qui aime les grandes courses, les grands événements. Il est un très grand, donc il veut faire partie des grands, c'est sur le Tour.
Eh bien, nous reverrons sans doute Remco Evenepoel qui va se refaire le moral, qui va se refaire une santé, et qu'on verra sans doute peut-être sur la Vuelta, peut-être sur les Mondiaux. On verra bien. 19h46, dans un instant, on parle des Français, et puis on parle également de l'étape de demain, parce qu'on redescend de la montagne, et qu'on espère que les Français vont enfin réussir à mettre au fond. À tout de suite, en direct de Super Bannière pour l'After Tour.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
19h48, toujours en direct de Super Bannière. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cet after au terme de cette troisième étape pyrénéenne remportée donc par le néerlandais Arensman. Pogacar reste maillot jaune, il conforte même son maillot jaune. Et toujours pas de succès d'étape pour les Français. On y a cru un moment aujourd'hui lorsqu'on a vu Lenny Martinez dans un grand jour. Hein, Lenny Martinez qui faisait partie de l'échappée matinale, qui a franchi en tête le Malais, qui a ensuite été également en tête ou en deuxième position à Aspen. Et avant de plier ses ailes, ses belles ailes de meilleur grimpeur pour l'instant du Tour de France. Alors, du coup, on n'a toujours pas de victoire d'étape française et le funeste décompte de Pierre-Yves Leroux continue. On en est à combien ce soir ?
27.
Ça me rappelle, tu sais, le nombre, quand on donnait le nombre de jours otages, au Liban. Voilà.
Bon, c'est pas la même chose quand même.
Heureusement, c'est pas la
moins
même,
triste.
Pas la même ambiance. Mais bon, voilà, on n'a toujours pas de victoire d'étape française. Alors, 2-3 tricolores ont été à la hauteur, à commencer donc par Lenny, je le disais, échappé dans le Tourmalet, qui semblait aérien, qui a récupéré plein de points pour le maillot à pois, dont il est aujourd'hui le leader officiel. Hein, c'est plus, il ne portera pas le maillot de Pogacar demain, mais ce sera bien le sien. Est-ce qu'il peut viser à la fois les pois et une étape? On a vu encore une fois aujourd'hui qu'il était énorme en début d'étape et qu'ensuite, eh bien, il a payé ses efforts. Est-ce qu'on peut faire les deux? Bah, on a 22 ans.
C'est ça. Quand on a 22 ans, ça paraît compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif de Lenny Martinez, c'est le maillot à pois. Et c'est pas une victoire d'étape. Si c'était une victoire d'étape, il aurait pas couru comme ça. Il se serait pas isolé dès le Tourmalet pour prendre le maximum de points au sommet. On le disait pendant le direct. Nous, on lui conseillait d'attendre le groupe de derrière et pour faire le moins d'efforts possible parce qu'on pensait que Lenny était capable d'aller gagner l'étape.
Ah, c'est ça.
Après, on a compris qu'il restait devant parce qu'il y avait Michael Woods et que du coup, son objectif était vraiment ce maillot à pois. On voit qu'il a pas encore, il est ultra talentueux, mais qu'il a pas encore la caisse pour tenir toute une étape devant en faisant les efforts pour prendre les points au maillot à pois et pour encore aller gagner l'étape à la fin. Arensman qui a gagné l'étape, il a pas fait les efforts avant lui. Il était déjà dans l'échappée, mais il a pas fait les efforts. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il choisisse. Je pense qu'il a choisi, c'est le maillot à pois. Malheureusement, je pense qu'il a les jambes pour gagner une étape. Voilà, c'est toujours la balance. Qu'est-ce qui est le mieux? Gagner une étape ou finir avec le maillot à pois à Paris?
Un podium du Tour de France?
Ouais, c'est quand même pas mal. Pas, hein. Mais on sait qu'à la Lose, les points seront doublés. On sait que Tadej Pogacar veut taper un grand coup de poing sur la table.
Au Ventoux aussi.
Il peut finir avec rien du tout. Mais en délaissant le maillot à pois, il est pas non plus sûr de gagner une étape. Pour l'instant, le maillot à pois, il est sur ses épaules. Il l'a, et bah qu'il y a finalement. Mais on peut pas lui demander et le maillot à pois et une étape pour le moment, je pense.
Il y avait le choix de Sophie, aujourd'hui c'est le choix de Lenny. On écoute tout de suite Lenny Martinez.
Le plan c'était de passer presque toutes les bosses en tête, sauf pour la dernière. Après on allait voir, mais en avant-dernier col j'ai complètement explosé, j'avais plus grand chose dans les jambes. J'étais bien dans le Tourmalet, mais je me suis jamais mis dans le rouge, j'ai fait à mon tempo et voilà, ça m'a permis après d'être plus serein pour la descente et le reste. Et après j'ai attendu le groupe pour la vallée.
Lenny Martinez, donc leader du classement de la montagne, il possède ce soir 60 points, soit 8 de mieux seulement que Poggi. Hein, c'est pas énorme. Arensman, grâce à son succès, a 48 points. Donc là aussi, ça peut être un adversaire. Et Jonas Vingegaard 39, Michael Woods 38. Donc rien n'est fait pour ce classement de la montagne. L'autre satisfaction, c'est encore Kevin Vauclin, dixième à 3 minutes 08 d'Arensman, mais qui, grâce à l'abandon de Remco, conserve sa place dans le top 5. Kevin, plutôt satisfait de sa perf et de celle de son équipe.
Bah, franchement, j'avais des plutôt bonnes jambes sur toute l'étape. J'ai senti le rythme à la fin qui était un peu dur pour moi. Du coup, j'ai préféré monter à mon rythme et je me suis battu jusqu'à la fin. Mais non, c'était une bonne journée, franchement. J'avais mes équipiers autour de moi. On était placés très haut dans le peloton. On s'est battu pour notre place et bon, c'était une bonne journée. J'ai donné tout ce que j'avais parce que c'est que du positif.
J'ai donné tout ce que j'avais. Il en a encore sous la pédale. Il s'accroche. Il se met pas dans le rouge. C'est ça. Il sait gérer quand même ses efforts. Quand il voit que ça accélère trop, il recule quelque peu et ensuite il se met un peu comme faisait Evenepoel jusqu'à ce qu'il explose hier et avant-hier. Mais c'est un peu la même façon de faire.
Il gère très bien Kevin Vauclin. Franchement, il met pas dans sa gestion. Il a jamais été dans cette situation-là. Il a pété à 5 ou 6 kilomètres du sommet. On a dit ça risque de faire le tarif. Prise d'être élevé à l'arrivée. Finalement, non. Il lise bien son effort. Il va très bien, Kevin Vauclin. Sa spécialité, ça reste le contre-la-montre. Donc, il sait gérer son effort. On le répète à chaque fois. Une montée de col, c'est comme un contre-la-montre. Pour l'instant, ça va bien. Et il était plutôt bien aujourd'hui dans l'étape. Après, bien sûr, quand les cadors commencent à s'attaquer, bah, il recule un petit peu, mais il limite très bien la casse. Et pour l'instant, tout va bien pour Kevin Vauclin.
Il y a deux autres Français hein, qui.
Bah oui, je voulais en parler. Aussi.
Ah ouais, ouais, quand même. Faut pas les oublier. Ils sont un petit peu plus loin au classement, mais Jordan Jegat, c'est bien défendu.
De Total Energy qui finit 13e de cette étape.
Après avoir été échappé toute la journée.
Exactement. 11e au classement général. Cela sans faire beaucoup de bruit. On l'écoute. Jordan Jegat.
J'avais moyen de mieux faire. J'étais distancé dans toutes les descentes sous la pluie. Donc beaucoup de regrets par rapport à ça. Mais voilà, j'ai glissé dans un virage et après j'ai perdu toute confiance en moi. Donc c'était difficile dans les descentes. Mais faut retenir le positif. Je suis pas tombé. Je suis arrivé intact. Donc c'est toujours ça de fait.
Voilà. Est-ce que vous trouvez
Alors là,
ça...
pour le coup, si je peux intervenir, oui, Jegat, c'est très bien.
Prie, mon cher.
C'est génial. 11e du tour, peut-être, mais lui, avec les jambes qu'il a, il ferait mieux d'essayer de gagner une étape, de prendre 30 minutes de plus que de faire 11e, 12e, 13e, 14e chaque année. Parce que ça, là, c'est mais super.
Et ben là, non, il est parti dans l'échappée aujourd'hui.
Ouais, mais il descend pas sous la pluie. Dans la montée du Tourmalet, il n'y a pas de descente. Il n'a jamais été dans le premier groupe. Il a toujours été à contre-temps. Hein. Pas loin. Et là, il va finir pas loin, mais quand même trop loin.
N'attaque pas le vanté parce que tu vas énerver.
Non, je suis pas dur. Alors là, autant Kevin Vauclin, il se bat pour être top 5. Oui. C'est génial. Lenny Martinez peut se battre.
Top 10, non. Il pourrait pas faire top 10.
Pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Il a 24 minutes. Oui. Il fait peur à personne, Jordan Jegat. Donc là, je suis d'accord avec Pierre-Yves pour une fois, il a pris l'échappée. OK, il a perdu du temps dans les descentes. Ça, c'est un vrai problème parce que si t'es un bon grimpeur et que tu descends pas très bien quand il pleut, c'est compliqué après. T'es toujours à contre-temps. Il a fait, à la fin de toutes les descentes, il était à 20 ou 30 secondes du groupe auquel il appartenait en haut de la bosse. Ben là, tu laisses des cartouches. Donc pour moi, là, c'est plus un travail dans les descentes, sur les descentes humides plutôt que le reste. Il a 24 minutes. Il a toute la liberté qu'il veut, Jordan Jegat. Pour moi, il doit continuer comme il fait maintenant. Il doit s'accrocher, il doit partir dans les échappées. Pour l'instant, je suis plutôt très content de ce que fait Jordan.
Quelle étape il peut gagner par contre?
Mont Ventoux.
Ouais, quelle étape un Français peut gagner?
Mont Ventoux.
Il en reste 7, donc il va falloir quand même s'activer. Il y a celle de demain, parlons-en, il nous reste 20 secondes. 20 secondes pour parler de l'étape de demain. Jérôme Coppel a travaillé.
Très belle étape. Entre Muret et Carcassonne. Pour la première fois depuis très longtemps, on n'aura pas un sprint massif à Carcassonne. C'était vraiment une volonté de Thierry Gouvenou de rajouter des bosses. Il en a rajouté 3, dont une qui est à
Toulouse, finalement.
Le sommet de la dernière bosse est à 50 km de l'arrivée, mais ça continue de monter. Là, c'est vraiment l'étape type pour les baroudeurs. Moi, je pense que demain, la disette des Français se termine avec un Romain Grégoire, un Aurélien Paré-Peinte, un Anthony Turgis, par exemple. Il faut des coureurs qui grimpent bien et qui ont une bonne pointe de vitesse parce que ça sera certainement un petit groupe qui va se disputer la victoire à Carcassonne.
On se souviendra de cette prédiction, mon cher Jérôme. On te rediffusera évidemment l'extrait demain. On espère que tu as raison, bien sûr.
Très bien, messieurs, vous avez été parfaits. Le barbecue vous attend, surtout la descente en télécabine quand même.
Allumé au lance-flamme, le barbecue. Voilà.
Il fait toujours aussi beau. Les Pyrénées, c'est magnifique. Ça a été magnifique aujourd'hui. Dans un instant, l'after foot avec Simon Dutin, qui a dû se régaler devant l'étape comme d'habitude. On se retrouve demain à 13h. Ah oui, le dimanche, c'est 13h. Et on sera évidemment dans la grande gueule du sport et dans les paris avec nos deux parieurs incroyables. À demain, 13h, pour l'intégral tour. Bonne soirée.
RMC, l'After Tour.